Chapitre 21. J'atterris sur la minuscule piste de l'aérodrome de Saint-Miguel. Je m'autorise même un petit slalom entre les nids de poules de la piste mal bitumée. « Vous ne vous débrouillez pas trop mal ?» me complimente Andy. Je retire ma ceinture, courbaturée par les heures de vol. Mieux que Saint-Exupéry, en tout cas. Andy réagit au quart de tour. « Ça, c'est pas gentil. Saint-Ex était un grand pilote. » Un peu distrait, c'est tout. Ouais, un vrai casse-cou. Elle rit en sautant de l'avion. Ça, c'est vrai. Aux commandes d'un avion, il a failli mourir plusieurs fois. De traumatisme crânien au Bourget, de noyade en Méditerranée dans un hydravion, de soif dans le désert, évidemment, mais aussi ici, en 1938. Son avion s'est écrasé au Guatemala. Il a frôlé la mort. On l'a d'abord cru perdu, puis il a échappé de peu à l'amputation, près d'ici. À l'hôpital d'Antigua, la capitale abandonnée du Guatemala. Consuelo apprend la nouvelle alors qu'elle voguait à bord d'un transatlantique et qu'ils étaient, disons, fâchés. Elle se précipite à son chevet, le soigne, le câline, et voilà les amants solaires miraculés réconciliés pour quelques mois. J'observe la piste mal entretenue. Je ressens une étrange nostalgie. Si j'avais appartenu à la génération des Mermoz, Guillaumet ou Saint-Exupéry, aurais-je osé, comme eux, parcourir la Terre à bord de prototypes d'avions, avec la quasi-certitude d'y laisser ma vie? Andy arrache sur le tarmac une fleur violette qui pousse dans le goudron. Consuelo racontera même ses longues promenades avec son Tonio convalescent dans la ville fantôme d'Antigua, envahie par les rosiers, au point que son amoureux lui cueille une rose en lui promettant de lui écrire un conte dont elle sera l'héroïne. L'anecdote me semble un peu trop belle pour être vraie. Ben voyons. Je veux sortir à mon tour et je me cogne la tête dans le cockpit. Aïe ! Andy éclate de rire. Je ne sais pas si vous pilotez mieux que Saint-Ex. Par contre, vous êtes aussi maladroit que lui. Saint-Exupéry était un grand ours pâteau non conscient de son poids, de sa taille et de sa force, qui se cognait aux portes, cassait tout ce qu'il touchait. Même un piano une fois. Comme vous. Je me frotte le front, vexé. N'importe quoi. C'est vrai, je n'ai jamais cassé de piano. Et aussi, continue Andy, il portait des vêtements toujours chiffonnés, perdait une de ses chaussures, dormait tout habillé. Andy m'inspecte et sourit. Je n'ose pas regarder mes habits, vérifier que ma chemise ne pend pas sur mon pantalon. Je rougis. Je sors de 15 heures d'avion. Andy éclate encore de rire. Je me moque. C'était un compliment, monsieur l'aviateur. Vous êtes aussi craquant que lui. Regardez derrière vous, le volcan. Je me retourne. Le sommet de Conchagua domine le paysage, aussi arrondi que la plage de sable noir dans laquelle il se trempe les pieds. Sublime. Terrassé par la chaleur, envoûté par le décor, je propose. On va se baigner? Je crois qu'Andy, déjà parti, ne m'a même pas écouté. Parvenir sur l'île de Conchaguita est ensuite un long périple. Train, bus, voiture, bateau. Un périple pendant lequel je perds mes clés, j'oublie mon sac, je tombe dans l'eau, je renverse le guacamole de mon burrito sur mon dernier t-shirt propre. Andy me dit que j'en fais trop. Je n'ai pas besoin de chercher à ressembler à Saint-Exupéry pour qu'elle m'admire. Elle parle aussi bien espagnol qu'anglais. Elle séduit avec la même grâce les chauffeurs de bus salvadoriens que les taxis new-yorkais. Elle paraît partout chez elle sur la planète. Enfin, le bateau nous dépose à l'embarcadère de Conchaguita. Nous découvrons, étonnés, la minuscule île perdue dans le golfe de Fonseca que se partagent le Salvador, le Honduras et le Nicaragua. Des grues plus hautes que les palmiers dépassent de la forêt. À côté du ponton de bois où accoste notre bateau de pêche, une longue jetée a été bétonnée où sont arrimés des cargos transportant toutes sortes de matériaux. Fer, plâtre, ciment, verre. Une imposante affiche plantée sur le port ne laisse aucun doute sur les intentions des promoteurs. Dans quelques mois, un gigantesque complexe hôtelier ouvrira sur cette île déserte. Alors que je regarde, fasciné, l'affiche du Paradise Island, Andy file demander au type moustachu et tatoué qui tient le food truck face à nous où elle peut trouver Moïsès Korav. Sans hésiter, le patron désigne la plage d'à côté. Du courrier d'abord, de la visite ensuite. L'apocalypse approche sur Conchaguita. Moïsès lève sa bouteille à notre santé, la vide alors que nous marchons vers lui, puis jette le cadavre de verre sur le sable. Moïsès est adossé à l'un des cocotiers de la plage, déserte. J'essaye de prendre l'une des chaises d'une paillote abandonnée, mais je m'aperçois qu'elles sont toutes attachées à l'aide d'une lourde chaîne au palmier. Les tables sont elles aussi enchaînées, ainsi que tous les objets de fortune qui jonchent la plage. Poubelles, vélos rouillés, barbecue. Étrange. Qui pourrait vouloir les voler? Andy, d'ordinaire si observatrice, n'a rien remarqué. Elle est subjuguée par Moïsès et s'est assise devant lui dans le sable. Moïsès est beau. Beau comme un bateau qui a fait le tour du monde. Avant de devenir une épave. Moïsès n'est pas bavard. Il ne commence à parler qu'après de longues minutes, et surtout après qu'Andy m'ait suggéré trois allers-retours jusqu'au food truck de l'embarcadère, les bras chargés de Corona et de mezcal reposado. Il ne se rappelle d'Oco qu'à la troisième Corona, et de Marie-Swan qu'à la sixième. Une fois le flacon de mezcal à moitié vide, ses souvenirs paraissent enfin remonter à la surface. On formait un club, explique Moïsès sans lâcher Andy des yeux, comme si le brave porteur d'alcool était aussi transparent que les bouteilles de verre. Un club qui rassemblait les meilleurs spécialistes du Petit Prince. Chacun avait son rôle. Ok, pensais-je. Ok, Moïsès, on sait déjà tout ça. Nous avons échafaudé beaucoup d'hypothèses. Des tas d'échafaudages qui se sont écroulés. On a accumulé beaucoup d'archives. Je sais, Moïsès. Andy a tout consulté dans l'avion. Ça l'a occupé des heures. Pour rien. Moïsès se tait, méditant sur son échec. Andy s'intéresse enfin à ce qui se passe autour. Elle s'interroge, comme moi, sur cet étrange mur haut de plusieurs mètres qui sépare la plage de l'océan Pacifique. Un mur dont on ne voit pas la fin et qui paraît faire le tour de l'île. Pour quelle raison ériger une telle muraille? Pour empêcher des migrants d'accoster? Des clandestins? Des Mexicains? Entre membres du Club 612, demande Andy, vous vous connaissiez? Oui. Articule difficilement Moïsès. On se retrouvait chaque année pour faire le point. Un séminaire. Une sorte de conclave entre élus. On se réunissait plusieurs jours chez Isar. C'était son rôle dans le club. Nous accueillir, dans son palais. Des heures à discuter. Pour rien. Un palais. Enfin du nouveau. Dans ma tête, je fais le point. Isar, le quatrième membre du club sur la liste, est donc le roi. Moïsès est évidemment le buveur. Oshi, le cinquième nom, serait l'allumeur de réverbère. Reste le mystérieux géographe. Moïsès est à nouveau perdu dans ses souvenirs lointains. Andy est une nouvelle fois plus rapide que moi. Pour le réveiller, elle fait joyeusement carillonner sa corona à celle de l'alcoolique. Bonne nouvelle, on prend le relais. Oko nous a confié la suite de la mission. On recommence l'enquête depuis le début. Marie-Swan nous a avoué que c'est la rose qui a tué le petit prince. Vous confirmez? J'ai presque eu l'impression qu'Andy allait lui sortir sa plaque de police. Moïsès n'a pas l'air impressionné. Il est même secoué d'un rire gras. La mousse de sa bière coule sur ses doigts. Swan ne change pas. Toujours aussi jalouse des autres roses. Et spécialement de Consuelo. Mais aucune des roses énamourées de ce salaud n'aurait pu faire de mal à son Tonio. Elle l'aimait trop. La rose tuait le petit prince. Ce serait bien le comble.
Pourquoi le comble ? S'étonne Andy.
Pourquoi ? Moïsès vide sa corona d'une seule rasade. Pourquoi ? Mais parce que c'est tout le contraire, bien entendu.
Tout le contraire ?
Oui, tout le contraire. Il décapsule une nouvelle bière entre ses dents. C'est Tonio qui a laissé tomber Consuelo, tout comme le petit prince a laissé tomber sa rose. Et sa rose en est morte.
Quoi ? Andy a fait un bond dans le sable, assez haut pour en faire gicler sa corona sur ses bras.
Après, on dira que c'est moi qui suis maladroit. Vous savez lire ou quoi ?
S'énerve Moïsès.
Le petit prince est un lâche, un amoureux indigne. Il s'évade avec les oiseaux comme un sauvage de peur de rester en cage. Oh, il regrette, le pauvre. Je n'aurais jamais dû m'enfuir. Il se réfugie derrière les plus pitoyables excuses. J'étais trop jeune pour savoir l'aimer. C'est toujours de la faute de l'autre. Les fleurs sont si contradictoires. Mais ça ne l'empêche pas de fuir ses responsabilités. Il ne reviendra pas. Sa rose le sait quand elle lui dit en guise d'adieu « Tâche d'être heureux ».
Il descend une énième bière. J'espère que le food truck se fait livrer par camion-citerne.
La vérité, poursuit Moïsès, c'est que le petit prince a compris que sa rose était morte. Seul, sur sa planète, sans eau ni protection, il la sait menacée de disparition prochaine. Sa fleur, qui n'a que 4 épines pour se défendre contre le monde, et je l'ai laissée toute seule chez moi, pleure le malheureux Tonio. Et il éclate brusquement en sanglots. Toute seule pendant 1 an. Trop tard pour les regrets, mon pauvre Tonio.
Alors qu'Andy réfléchit, j'aime beaucoup quand son front et ses yeux se plissent ainsi. Mon regard glisse une nouvelle fois sur les tables et les chaises enchaînées aux arbres de la plage. Pourquoi attacher de tels objets ? Par peur d'une tempête ? La météo n'annonce pourtant aucun vent pour chasser les rares nuages. Parole d'aviateur. Le petit prince aurait abandonné sa rose ? Commente Andy avec une part de mélancolie dans la voix. Tout comme Saint-Exupéry a abandonné Consuelo ?
Oui. Il a séduit la petite princesse de ce petit pays, le Salvador. Il l'a aimé tel un petit animal exotique. Il l'a apprivoisé, puis s'est lassé. Et il a disparu sans rien lui laisser. Pas même un testament. Pas même une preuve publique qu'elle est bien sa rose unique. Pas même cet autre livre promis. Pas même une dédicace. Il disparaît parce qu'il a peur d'affronter sa propre lâcheté.
Andy reste pensive. Tout son visage se plisse à nouveau, comme si elle pressait son cerveau pour en extraire une idée. Elle avait la même expression adorable dans le musée new-yorkais quand elle déchiffrait les ratures du chapitre du renard, son ami apprivoisé, la responsabilité, les champs de blé. Une fine pluie chaude tombe maintenant sur la plage. Les quelques gouttes paraissent faire pousser encore plus vite les immeubles du palace en chantier.
Qui a tué le petit prince alors ?
Interroge Andy.
Qui a tué Saint-Exupéry ?
Moïsès ne répond pas. Il se contente de fouiller dans sa poche tout en serrant entre ses cuisses une étrange caisse blanche en carton. Il finit par dénicher ce qu'il cherche et nous tend 2 passeports rouges. Je me souviens de l'adresse du 4e membre du club 612. Isar, royaume autonome d'Herminie, archipel des Orcades, Écosse.
« Ils vous seront utiles », précise Moïsès. « Les douaniers de la principauté d'Herminie ont tendance à faire un peu de zèle. »
Le buveur éclate de rire avant d'ordonner.
« Laissez-moi !»
Je me lève. Andy ne bouge pas.
Laissez-moi maintenant. Allez dormir ailleurs. Vous êtes venu un peu trop tôt pour profiter de l'hôtel.
Il rit encore. Andy s'est levé. Alors que nous nous éloignons, j'observe Moïsès au loin. Je le vois, lui aussi, avec une infinie précaution, passer une chaîne autour de sa taille et la fixer au cocotier. Comme en prévision d'un cataclysme imminent.